Vous écoutez Présidentiel 2020, l'heure du choix. Avec Valérie Beaudoin et Mario Langlois au réseau Cogeco.
I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? Remember? Please. Please. I saved your damn neighborhood, okay? The other thing, I don't have that much time to be that nice. You know, I can do it, but I gotta go quickly.
Alors, Donald Trump, le président charmeur qui tentait de courtiser l'électorat féminin des banlieues, dont on disait qu'il allait probablement en échapper quelques-uns de ses votes ou quelques-unes de ses électrices, oui. Valérie. Et à ce sujet, d'ailleurs, on va s'intéresser particulièrement à cet aspect du vote avec notre prochaine invitée.
Oui, Andréane Bissonnette, chercheure à la chaire Raoul Dandurand, donc qui est une de mes collègues à la chaire. Bonjour, Andréane.
Bonsoir, Andréane.
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Et toi, ta soirée, je veux savoir comment tu accueilles les résultats jusqu'à maintenant. Avant de parler du vote des femmes, j'aimerais t'entendre sur ce que tu vois, Texas, Arizona, entre autres.
Oui, en fait, moi, c'est deux États que je suis tout particulièrement et sur lesquels portent mes recherches. Je dois avouer que autant en Floride qu'au Texas, la question du vote latino-américain surprend beaucoup ce soir. C'est un électorat que le Parti démocrate courtise depuis plusieurs semaines. Mais on voit que même dans des comtés majoritairement latino-américains à la frontière mexicaine-états-unienne qui votaient démocrates par des marges de 50-60 points de pourcentage sont beaucoup plus serrés cette année. Alors qu'en Arizona, on peut encore regarder le désespoir du côté démocrate de faire changer l'état de couleur, donc du rouge au bleu.
Puis on entendait tout à l'heure dans la clip qui t'a introduit en quelque sorte le président Trump qui disait « Aimez-moi aux femmes de banlieue ».
Peut-être j'ai sauvé vos banlieues aussi.
Exactement, je vous ai sauvé, là, il allait être éliminé. Mais j'aimerais que tu nous expliques pourquoi on a parlé autant des femmes blanches de banlieue. Là, je reprends un peu l'expression qui ressort beaucoup. À quel point c'est important d'avoir le vote de ces femmes-là?
Mais en fait, les banlieues, globalement, aux États-Unis, c'est une zone géographique importante en termes de poids électoral. Et dans ces banlieues-là, on voyait que les femmes blanches de banlieue qui avaient été un électorat qui avait notamment permis à Donald Trump de faire des gains en 2016, l'administration avait plus de difficultés à aller les chercher, notamment sur la question de la gestion de la COVID-19, mais également, on l'a vu, là, suite aux manifestations cet été qui ont suivi les décès de Breonna Taylor et George Floyd. Le discours de la loi et l'ordre mené par le président ne trouvait pas une résonance auprès des femmes blanches de banlieue, qui sont tout de même un électorat, donc comme je le disais, qui est important en termes de poids démographique des banlieues, mais également les femmes représentent 52% de l'électorat aux États-Unis et votent davantage que les hommes depuis les élections des années 1980.
Et au niveau du vote aussi, là, on parlait des minorités. Tout à l'heure, on a parlé des latino-américains. Le vote afro-américain comptait beaucoup là-dessus, entre autres en Géorgie, pour peut-être faire des gains du côté démocrate. Est-ce que ce que tu vois jusqu'à maintenant, ça t'impressionne ou au contraire, c'est en dessous de ce que tu pensais?
Bien, au niveau de la Géorgie, on voit que bien que Donald Trump s'enligne pour une victoire dans cet État-là, les marges sont tout de même là. On parle de 12% et les grandes villes sont démocrates, mais également les banlieues. Lorsqu'on regarde la carte et qu'on regarde autour de Atlanta, on voit que non seulement le centre de Atlanta, mais également les banlieues. Donc, pour revenir aussi à ce fameux vote des banlieues, à ce niveau-là, on semble avoir à tout le moins récupérer une partie du vote qui avait pu échapper à Clinton en 2016. Mais on voit également que Donald Trump a mieux fait avec un pan de l'électorat afro-américain dans certains comtés que ce qu'il avait fait en 2016. Donc, au niveau de la campagne républicaine, là, autant en Floride avec les latino-américains que dans d'autres États avec les afro-américains, on a mieux fait qu'en 2016.
Selon ce que vous observez, Andréane Bissonnette, le chercheur à la chaire Raoul Dandurand, est-ce que les démocrates doivent envisager une possible défaite ce soir?
En fait, c'est un scénario qui était mis de l'avant aussi par les démocrates dans les jours qui ont précédé l'élection. Donc, plusieurs stratèges démocrates disaient « rien n'est fait tant que l'élection n'est pas terminée ». Pour le moment, il n'y a pas d'impossibilité de la part d'un d'un ou l'autre des candidats de remporter l'élection, c'est-à-dire qu'il y a encore des voix possibles des deux côtés. Il y a tous les États du Midwest qui ne sont pas encore annoncés, mais non seulement qui ne sont pas encore annoncés, mais qui ont à peine un tiers de leurs votes qui sont comptés. Et on le sait notamment là, au Michigan, en Ohio, en Pennsylvanie, ça peut prendre, on risque de ne pas avoir de résultats fermes ce soir avec le vote par anticipation qui a été particulièrement présent et qui peut être compté là, dans les jours à venir également, contrairement à la Floride où les bulletins de vote devaient être arrivés le 3 novembre et donc on pourrait avoir l'entièreté des résultats ce soir. C'est notamment ce que visaient les organisateurs électoraux dans l'État.
Il y a une chose qu'on a tous constaté, là, au-delà de toutes allégeances et des opinions politiques, c'est que comme campaigner, Trump est d'un calibre qui ne se compare pas à Joe Biden. Là. On est dans une autre ligue et que le dernier droit, le dernier sprint post-COVID dans le cas de Trump, clairement, là, ça l'a ramené dans la course au point qu'il peut peut-être envisager une victoire ce soir en conclusion, Andréane.
Oui, ben en fait, les deux candidats ont des styles très différents de campagne. Donc, vous l'avez bien souligné, là, Donald Trump mise beaucoup sur les rallyes, sur des événements en présence et s'adressait à un pan de l'électorat aussi qui, est moins ferme là, sur les mesures de distanciation sociale, alors que du côté du Parti démocrate, on se positionnait comme le parti responsable en termes de la gestion de la COVID-19. Donc, oui, on avait un candidat qui est moins dans les rallyes, mais on a également une stratégie de campagne qui ne nous aide pas
sur la COVID, exactement. Il y a un parti qui l'a ignoré et l'autre qui est peut-être respecté à outrance au point d'aliéner une partie de l'électorat qui voulait moins en entendre parler. On pourra décortiquer ça dans les prochains jours. On n'a pas de résultat définitif de toute façon encore, mais merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise, Andréane.
Merci, Andréane.
Merci à vous. Bonne soirée électorale.
Bonne soirée à toi également. Andréane Bissonnette, chercheure à la chaire Raoul Dandurand, tout comme notre collègue Valérie d'ailleurs, des gens qui passent une grosse partie de leur temps de semaine à étudier justement la situation américaine. Denis?
New Hampshire, notre État voisin qui vient de passer du côté des démocrates et plusieurs États, notamment le Nebraska, la Louisiane, le Kansas et l'Utah. Qui iront du côté républicain avec Donald Trump.
CNN est peut-être le réseau le plus prudent actuellement dans les projections du collège électoral. On donne 98 à Biden, 95 à Trump. Fox, en ce moment, donne 133 à Biden et 115 à Trump, donc il projette beaucoup plus loin. C'est présidentiel 2020 au réseau Cogeco et au 98.5. On vous revient dans un instant.